Donc c'est une table ronde sur les zombies avec quatre auteurs de littérature de genre, pas que de science-fiction d'ailleurs, et puis puisqu'on parle de zombies on est plutôt dans le fantastique d'ailleurs, et un scientifique mais qui est aussi qui a lu aussi les qui connaît bien les zombies dans le genre. Je vais commencer par ma gauche avec Fabien Cavel qui est romancier et dont qui a écrit l'Évangile cannibale, qui reprend un traitement. On va détailler après chaque traitement du zombie par chaque auteur. Un zombie, on peut dire assez classique, toi. Mais c'est dans ton traitement par ailleurs que les choses un peu changent. Juste à côté de moi, Mike Carey, qui est un auteur anglais, qui a écrit plusieurs romans, beaucoup de bandes dessinées aussi aux États-Unis et en Angleterre, et qui a écrit Celle qui a tous les dons, qui nous propose une autre version du zombie, peut-être qu'ils ne sont pas des zombies aussi, on va voir avec Mike tout à l'heure vraiment de quoi il retourne. À ma droite, Jérôme Norez, je vais y arriver. J'ai fait 28 tables rondes aujourd'hui, ça devient un peu dur. Jérôme Norez, qui est aussi un romancier, qui écrit pour les ados, pour les adultes, qui écrit dans un peu tous les genres, avec un grand plaisir, qui se délecte de, j'ai l'impression d'aller farfouiller dans tous les genres, et qui a lui aussi écrit un roman de zombies, mais en reprenant les codes du teen movie un peu, qui s'appelle Brainless, donc c'est... sans cerveau, quoi. Mais tu vas nous expliquer tout ça. À la droite de Jérôme, Guillaume Lecointre, qui est zoobiologiste, c'est ça ? Zoologiste, systématicien, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, voilà, qui va nous éclairer un peu sur les zombies d'un point de vue peut-être biologique et plus scientifique. Et à la droite de Guillaume, Daryl Gregory, qui est un auteur américain, auteur de plusieurs romans, de bandes dessinées aussi, et qui a écrit un roman qui a été traduit récemment, qui s'appelle Stony Mayhall. Le titre en français, j'ai oublié le vrai titre en français, L'éducation de Stony Mayhall, et qui nous propose un zombie un petit peu plus christique, enfin vraiment une autre version du zombie. On verra aussi avec lui... sa façon de voir les zombies. Alors la première question que j'ai envie de vous poser à tous, c'est pourquoi tant de zombies en ce moment ? Pourquoi 30 ou 40 ans après George Romero, Walking Dead, des films de zombies dans tous les sens, les zombies dans la bande dessinée, dans la littérature, pourquoi des zombies partout ? Est-ce qu'on est toujours à ce point fasciné par l'apocalypse ? Voilà. Qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui et pourquoi, à votre avis, autant de zombies partout ? Qui veut répondre à cette question très intéressante ?
Tu veux que je commence, c'est ça ?
Vas-y.
Moi, je pense que ça correspond un peu à la manière dont on envisage l'humanité en ce moment, c'est-à-dire une vision quand même très noire, l'humanité qui va à sa perte et le zombie qui est un peu... l'incarnation de toutes les forces destructrices qui reposent en nous, quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est tous à parler de zombies. Après, il y a la peur du vieillissement, je pense, qui nous travaille beaucoup. Alors il y a le vampire qui était un peu une espèce de décor qui empêchait d'y penser, puisque le vampire il bouge pas, et c'est un peu le retour du refoulé avec le zombie qui, lui, au contraire, est dans la déchéance la plus totale. Voilà.
I think every monster that lasts in horror, every monster that keeps on being revisited, does so because it's a mirror. It's a mirror for us. It shows us a part of our own nature. And the terrifying thing about zombies is it's us with nobody home. They are humans seen as animals and humans seen as corpses. But I think also, it's as you were just saying, Fabien, it's a kind of side effect of the enduring popularity of post-apocalyptic stories. We're living in a world where the end of the world seems to be always just around the corner. We don't know whether it will be an ecological catastrophe or some kind of scientific experiment that goes wrong or a financial meltdown that turns into a war. But one way or another, we kind of feel like it's we're living on the edge of a cliff, and zombie stories are just one way of exploring that cliff.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que c'est une conséquence de notre vision pessimiste du futur? En gros, on pourrait résumer ça comme ça aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Dans la vision apocalyptique du zombie, oui, c'est une espèce de créature mécanique, robotique, quelque part, qui reproduit de manière sauvage et prédatrice nos comportements quotidiens. Mais après, j'ai l'impression aussi que le zombie, il est le reflet d'une espèce d'hypocondrie, de civilisation hypocondriaque, quoi. C'est quand même l'extrémité de la maladie, le zombie. C'est le cancer au stade terminal, quelque part, le zombie. C'est quand même la terreur de la chair. De la chair, du pourrissement, c'est ça qui fait la grande force horrifique du zombie. C'est aussi l'odeur qui peut s'en dégager. C'est quelque chose de très spécifique au zombie. Le vampire est sexy. Le zombie l'est jamais.
Daryl.
Yeah, there was something. They were saying. Laurent was saying in the beginning, like this love of the apocalypse. I think you were saying, and I do think there's a yearning for the apocalypse as well as. The zombie itself, because it's such a disgusting monster, there's a moral clarity to being able to kill it freely. And there's this, I think there's this tendency in a lot of zombie fiction to say, finally we can clear the decks, it's perfectly fine to shoot human-looking things in the face and to kill them in as many creative ways as possible. And there's also, I think everybody wants to imagine... that kind of clarity about themselves, like how would I act when it comes right, what kind of person am I when it comes right down to life versus death, and all the rules of society have fallen away, and now I can just fire away with my shotgun or my or chop off heads with my samurai sword. And that's also, though, I think the dangerous thing about zombie fiction, because it embraces a kind of xenophobia. You know, we can see the other, and the other is someone we're perfectly allowed to kill, and that's the dangerous thing about it.
Il y a eu un truc très rigolo justement à propos de ce que vous dites, qui est vraiment très juste. Dernièrement, dans Walking Dead, qui est une série où on poutre du zombie à tout va, où on fait exploser des crânes, où il y a presque un culte de l'arme à feu et du sabre, et où une scène a introduit deux homosexuels, et tout d'un coup la toile s'est enflammée, et où les spectateurs, beaucoup de spectateurs de Walking Dead, ont dit non mais c'est une honte et qu'il y ait des homosexuels dans cette série. Enfin, les fans de la série qui ne trouvaient rien à redire à ce qu'on explose, mais parce qu'on ne tue pas non plus que des zombies dans la série, mais on tue aussi les humains, trouvaient affreux que deux hommes s'embrassent, quoi. Donc ça rejoint à peu près ce que disait Daryl.
J'ai l'impression qu'avec le zombie, on peut être à la fois anarchiste et réactionnaire.
C'est pas faux. Oui, vas-y.
Jusqu'à il y a très peu de temps, le zombie était surtout aussi une mécanique de miroir. C'est-à-dire que chez Romero, il est très clair que le zombie est le prétexte à dire quelque chose sur la société. En 1967, c'est sur le racisme. En 1976, c'est sur la société de consommation. Le dernier film de Romero, c'est à propos de l'exclusion de la société. Ce sont les zombies, enfin les SDF sont les zombies, et les vivants, les opulents sont dans des tours protégées. Donc le zombie est toujours aussi un révélateur des crispations que l'on a au sujet de nous-mêmes en tant que société. Alors tu disais, on peut être effectivement amateur de zombies et anarchiste. C'est surtout qu'au départ, finalement, l'aventure zombie, elle démarre comme un élément de critique de la société. En fait. Et le foisonnement dont tu parles actuel diversifie les thèmes. Jusqu'à présent, on était surtout sur un thème soit horrifique, soit critique vis-à-vis de la société. J'ai beaucoup aimé les écrits de Max Brooks, par exemple, sur l'enquête qui est faite après l'épidémie. Les épidémies révèlent énormément de choses, hein, à la fois sur les sociétés et sur la nature humaine. Max Brooks fait son enquête sur comment s'en est-on sorti, comment a-t-on pu juguler l'épidémie, et là on a vraiment une enquête où on traverse tous les milieux de la société. Et dans le foisonnement récent, ce que je trouve, c'est que justement il y a maintenant une diversification de thématiques. J'ai trouvé, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, j'ai trouvé chez Daryl, par exemple, un traitement très nouveau, en fait.
Chacun de nos auteurs traite le zombie de manière très différente.
Voilà, oui, oui. Voilà, bon, voilà, j'ai trouvé. J'ai peut-être pas lu les autres, mais, mais là, j'ai trouvé quelque chose de nouveau, on en reparlera, oui.
Alors, justement, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais il y a eu des zombies depuis très très longtemps. Je passe sur le vaudou haïtien et tout ça, mais Frankenstein, le monstre de Frankenstein est un zombie, par exemple. Il y a eu des zombies chez Lovecraft, Herbert West, réanimateur, crée des zombies. Mais le point de basculement, je pense qu'on est tous d'accord, c'est le film de Romero de 68, où là, le zombie est plus un être isolé, mais c'est une épidémie, justement. Et c'est à partir de là, vraiment, que cette créature monstrueuse va prendre un essor dans la culture populaire. Alors, ce qu'a fait Daryl Gregory, c'est de nous proposer... à la fin du film La Nuit des Morts Vivants, l'épidémie, on a l'impression, est contrôlée. Les rednecks sont en train de tuer les derniers zombies. Les chasseurs sont de sortie. Ils tirent les zombies comme des lapins. Et Daryl Gregory nous a raconté la suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le point de départ de Stony Mayhall et nous expliquer quel est votre zombie, votre vision du zombie et comment vous l'avez utilisé, en fait, dans Stony Mayhall?
Stony Mayhall, the Romero movie is a documentary, so that's the starting point of the story. And so it takes place after the apocalypse is over, and Stony is a zombie baby who somehow escaped being shot, and thinks he's the last living, and inexplicably begins to grow up. So just go with that for me for a minute. Just pretend that makes sense. And he thinks he's the last living dead person. And the physics of my book are that after 48 hours or so, the zombies regain consciousness, except now, of course, they're being hunted. And I was just interested in inverting the usual zombie novel and make the zombie a thinking person and the hero of the book, and it covers about 40 years of his unlife. Examining like what it means to be human, what is consciousness when you exist in a body that theoretically should be completely dead and have no metabolism. And he expends his entire life trying to make sense of a world that makes no sense to him. I always wanted to end the novel with the inversion of Night of the Living Dead, with a zombie trapped in a house surrounded by humans who wanted to kill him. That was my take. I was just interested in using the zombie as a metaphor for the oppressed person, the minority who's... when Stony finally finds other zombies, they're all deeply underground and in hiding. They spend most of their time smoking cigarettes and watching TV because they've got not much else to do. But they're in hiding, and I was interested in that idea of what does an oppressed people, are they allowed to do? Can they restart a zombie apocalypse? Can they start biting people? They have a concept called the big bite in Stony Mayhall. Should they just restart the zombie apocalypse to save themselves as a species? And that was the kind of thing I was interested in, is the zombie as an oppressed person.
Donc votre zombie est intelligent, les autres aussi, et c'est un peu le cas... donc là, on s'éloigne un peu des zombies typiques de Romero, sans cervelle, et justement, sans cervelle, c'est le titre de ton roman, Jérôme. Et toi aussi, ton zombie est doué de sens, enfin, réfléchi, et il devient de plus en plus intelligent quand il mange de la cervelle. Enfin, explique-nous déjà d'où t'es venue l'idée, pourquoi traiter ce thème et ce zombie de cette façon, et le cadre aussi, le teen movie.
Oui. Parce que j'avais envie, moi, de produire une collision entre deux genres cinématographiques qui sont des genres de drive-in, en fait, hein, qui sont le film de zombies traditionnel et puis la teen comedy à l'américaine, qui est un genre extrêmement typé aussi, extrêmement vulgaire, avec une vision quand même de l'adolescence qui est une vision quasi horrifique, d'adolescents stupides, obsédés par le sexe, méchants, n'ayant que des appétits finalement très, très basiques, quoi. La drogue, le sexe et la bouffe grasse. Et voilà, je voulais créer quelque chose autour de ces deux figures cinématographiques. Et donc j'ai choisi un angle qui n'est pas celui de l'apocalypse zombie,
Mais au contraire, le zombie est quelque chose de rare, c'est-à-dire qu'on en a, on a que quelques exemplaires de zombies à travers l'Amérique, et on essaye finalement de les conserver, de les intégrer. Donc ils sont scolairement intégrés. Et mon héros, qui est un ado, qui se réveille un jour, qui meurt au cours d'un jeu stupide qui consiste à manger le plus d'épis de maïs possible. Il s'étouffe avec le maïs et il revient à la vie. Donc c'est un pauvre type quand même, ce garçon. Et il continue à être un pauvre type, mais sous la forme d'un zombie. Seulement, son intelligence se révèle quand il se nourrit, en particulier de cervelle. Alors, ça peut être de la cervelle animale, mais la cervelle humaine reste quand même celle qui est qualitativement la plus intéressante. Et à ce moment-là, il acquiert une espèce d'intelligence remarquable qu'il n'avait pas de son vivant. Et une intelligence critique, c'est-à-dire qu'il porte un regard sur ce qui l'entoure, sur ses copains, sur sa mère, sur son environnement et sur sa condition de zombie, un regard extrêmement acerbe et extrêmement, extrêmement dur d'ailleurs.
Et le cadre alors est très américain. Est-ce que c'est un hommage au teen movie ou c'est aussi une charge contre un certain mode de vie que...
Oui, mais c'est une charge. Oui, c'est satirique, mais j'avais pas une volonté de charge ou de regard critique sur ce particulier sur la société américaine. Je pourrais porter le même regard sur la société française, quoi. C'est surtout que cet environnement, d'abord, il est assez exotique pour des Français. On n'a pas de cheerleaders, de choses comme ça chez nous. Et moi, je trouve ça très amusant et c'était un cadre très très amusant pour un récit de zombies.
Alors, chez vous deux, vous renversez un peu le problème. C'est pas une invasion de zombies, mais c'est des zombies un peu isolés. Comme disait Daryl, ils finissent vraiment au contraire de la nuit en vivant. Toi, il est isolé, il y a très peu de cas. J'aime bien ce que tu as inventé, le coma homéostatique, là, pour...
Oui, alors j'ai essayé de trouver un cadre médical à la condition de zombie. Donc, d'abord, parler de zombification, c'est pas politiquement correct. Parler de mort-vivant, c'est pas politiquement correct. Donc, ce sont des termes qu'on évite. Et visiblement, c'est une pathologie qu'on appelle le coma homéostatique qui frappe particulièrement les adolescents. Et on suggère, même si je n'ai pas poussé très loin l'analyse là-dessus, on suggère en fait que tous les adolescents sont porteurs de cette espèce de pathologie. Il y a seulement quelques conditions qui font qu'ils deviennent effectivement des zombies, mais qu'en gros, tous les ados sont des zombies en puissance. Ce que chaque parent sait, évidemment.
Tu peux enlever le « en puissance » ou le mettre entre parenthèses, peut-être. Alors, donc, de ce côté, vous avez un peu renversé le problème. Et chez Mike et chez Fabien, là, par contre, on a de la vraie invasion de zombies. Chez Fabien, notamment, on a... Et toi, c'est les zombies de Romero qui attaquent, vraiment. Enfin, des zombies semblables à ceux de Romero. Et toi, ce qui change, c'est le cadre, en fait. Et alors, on est dans une maison de retraite avec une vieille personne, un narrateur, on peut le dire, haïssable, enfin, voilà, pas très sympathique. Et je voudrais que tu nous en parles et que tu nous expliques, toi aussi, ton idée, pourquoi utiliser les zombies, le cadre.
Bah, en fait, moi, quand mon roman commence, effectivement, ça se passe dans une maison de retraite, ça se passe dans quelques années dans l'avenir, où effectivement, il y a beaucoup de vieux... Ils sont à Nanterre, donc déjà c'est pas terrible. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une espèce d'invasion zombie qui se développe autour d'eux. Mais ils en sont pas sûrs, parce qu'il y a une espèce de dame frappée d'Alzheimer qui a des visions, des voix qui lui parlent et qui dit l'invasion est imminente, on va s'enfermer. Et en fait, c'est un roman qui parle pas de zombies pendant les 50 premières pages, parce que les zombies ce sont les petits vieux, parce que l'idée c'est vraiment de décrire la vie qui est absolument horrible dans cette maison de retraite, avec le traitement, justement je parlais de déliquescence. Effectivement on aura des zombies après. Alors moi j'ai une autre explication pour les zombies qui est pas la même. C'est-à-dire que, alors, je peux donner l'explication parce que c'est pas vraiment un mystère, puis c'est une interprétation du personnage principal qui est effectivement haïssable et qui est pas complètement serein et lucide. C'est qu'en gros, on a utilisé pour ne pas vieillir des médicaments et qu'au bout d'un moment, ces médicaments, ils ont marché pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, bah, c'est un effet retour et on vieillit d'autant plus vite. Et du coup, il y a plein de gens, ces vieux-là sont épargnés parce que justement, étant vieux et pauvres. Ils n'ont pas pu prendre ce médicament et que du coup les autres qu'en ont pris deviennent des créatures absolument ignobles qui vont se réfugier dans des endroits froids pour pas être encore plus rapidement détruites. Voilà, et après ça va être cette espèce de road movie de, en chaise roulante dans un Paris dévasté où effectivement les zombies vont aussi vite que les personnes qui poursuivent, ils sont quasiment à égalité. Et moi c'est ça qui m'avait attiré au départ, parce que c'est vrai que ce que je voulais éviter c'était le plaisir du massacre zombie, qui est un plaisir qui est quand même obscène. Effectivement on va dégommer du zombie, ça va exploser, donc j'ai enlevé les armes à feu et j'ai des petits vieux, c'est-à-dire qui ont les mêmes problèmes que les zombies, ils marchent lentement, ils perdent la mémoire, ils ont leur poche à côté d'eux, il faut changer la poche de temps en temps, la roue du fauteuil roulant se coince, il n'arrive pas à marcher vite, enfin bon, c'est tout ce genre de truc.
Et tu utilises aussi le cadre français et parisien notamment, qui est, ah oui. Voilà, c'est aussi sortir du cadre de ce qu'on est habitué. On est en beaucoup de fiction sur les zombies qui se passent dans, et Mike fait la même chose en Angleterre, mais qui se passe aux États-Unis. Et toi, tu joues avec Paris aussi, avec la connaissance du lecteur, sans doute. La tienne.
Oui, je connais Paris, donc je vois pas pourquoi je mettrais des zombies à Los Angeles. Les Américains savent ça beaucoup mieux que nous, puisqu'ils connaissent l'endroit. Et donc, en France, ça me paraissait plus rigolo aussi. Et puis, du coup, ça, les États-Unis, tout de suite, tout est plus grand. À Paris, ça paraît plus dérisoire, même si je fais sauter la Tour Eiffel en cours de route. Ça reste quand même des petits vieux qui viennent de Nanterre, qui se réfugient dans Paris. Bon, voilà, c'est un peu la loose, quoi. C'est ça que j'aime bien.
Deux mots du titre aussi, de la structure du livre. L'évangile cannibale, tu as structuré ça comme un évangile.
Oui, alors l'idée, c'est que comme la petite vieille qui s'appelle Magda a ces espèces de visions, elle est une espèce de messie qu'ils vont écouter, et on se rend compte au fur et à mesure qu'ils doivent faire un nouvel évangile, et au bout d'un moment, ces petits vieux se demandent si, parce que là c'est un peu une parodie du post-apo, c'est-à-dire que les gens qui doivent faire redémarrer l'humanité, ce sont des petits vieux un petit peu épuisés quand même, et donc au moment où ils se disent, il va falloir qu'on fasse les nouveaux Adam et Ève, c'est problématique. Donc je vous décris pas comment ils font, parce que ça se passe pas bien, mais effectivement ça pose tout un tas de problèmes. D'ailleurs je suis parti de là quand j'ai écrit mon livre, en me disant, et s'il y a que des petits vieux qui survivent, parce qu'il y a que ces petits vieux là, comment ils vont faire pour repeupler l'humanité? C'est pas propre, je tiens à vous le dire.
Il y a une scène assez choquante, on peut le dire. Et toi aussi il y a une scène un peu, comme c'est un ado, ton zombie, il roule des patins à sa petite copine.
Oui, il a une petite copine qui, elle, n'est pas zombie et qui n'a pas trop de problèmes, effectivement, à lui faire des gros smacks, bien qu'il y ait un arrière-goût de formol, parce que ce garçon est obligé de s'injecter du formol tous les jours pour ne pas tomber en morceaux. Mais ils arrivent quand même à avoir une relation tout à fait romantique. Bon, c'est vrai, sa bouche est froide, il y a des petits arrière-goûts, il y a cette odeur de formol, ils ont même une relation sexuelle, et le malheureux héros se demande si un zombie est potentiellement capable d'une érection, et il découvre que oui, en fait, tout se passe bien, voilà.
Mike, vous décrivez des affames en français, des hungries. Qui ne sont pas des zombies. Je crois pas que le mot zombie soit prononcé une fois dans votre roman Celle qui a tous les dons. Alors pareil, la même question qu'à tout le monde, pourquoi prendre ce sujet et quelle utilisation avait fait du cliché zombie?
Well, I think the reason why we avoid the word zombie is precisely because of what you were talking about earlier, about how in the traditional zombie novel, as soon as you categorize somebody as a zombie, they're explicitly not human anymore. They have no human rights. You can cut loose with a chainsaw or a shotgun or whatever. I kind of wanted in my story to ease the reader into a situation where they're actually meeting the zombies as people, and they're not identified as the living dead or as sort of post-humans until quite a little way into the story. So you have to respond to them as human beings first, and they're children, they're little kids, and they're sort of intelligent and vivacious and curious and emotionally open in the way that children are, and then you realize that they're zombies. I think another reason why the zombie trope is still so powerful and so universal is because zombie narratives perfectly straddle horror, fantastique, and science fiction, because you can obviously have a supernatural explanation for a zombie apocalypse, or you can have a scientific one. And in my case, I chose a scientific explanation. In Selkia tous les dents, there is a fungus, Ophiocordyceps, some of you may know that cordyceps is a real pathogen, a real parasitic organism. It's a parasite on ants, and it's a neurological hijacker. It infects the ant, and it takes over the ant's nervous system and forces the ant to behave in ways that are beneficial to the fungus. So in my story, that has happened to human beings. You get the cordyceps infection, and you're no longer in control of your own body. The fungus controls you, the fungus moves you, the fungus fills you with hunger, because it's when you bite other humans that you spread the infection, you spread the fungus. But for whatever reason, there are a small group of children who are partially immune. They have the fungus, they have the infection, they have the hunger to eat human flesh, but they still have normal intelligence and normal personalities. But they're being treated as lab animals, experimented on, dissected. And the heroine is one of these children who, at the start of the story, has no idea that she's a monster. And it's partly a journey of discovery for her.
Ça me permet de faire la transition vers Guillaume, là, ce champignon cordyceps. Sur une autre table ronde, on en a déjà parlé, mais je voudrais que tu réexpliques si c'est possible. Donc, comme disait Mike, ce champignon existe et il s'attaque aux fourmis. Si tu peux nous expliquer ce qu'il fait sur les fourmis, par exemple, et peut-être nous dire si est-ce que ça serait possible que ça marche sur les humains, avec le cordyceps, ou un équivalent s'attaque aux humains.
Oui, c'est la grande question de savoir comment un parasite peut modifier le comportement de son hôte. Ceux des parasites capables de modifier le comportement de l'hôte, et si ce comportement passe, autorise une transition vers un autre hôte, parce que souvent les parasites font des cycles à plusieurs hôtes, plusieurs fois dans la nature, effectivement, au cours de l'évolution, on voit ce phénomène se produire. Le parasite dont on parle, effectivement, c'est un cas connu chez une fourmi. Les fourmis n'ont pas pour habitude de monter en haut des brins d'herbe. Eh bien oui, effectivement, le parasite modifie le comportement de la fourmi individuelle, à l'échelle individuelle. La fourmi grimpe en haut du brin d'herbe et se suspend, et reste ainsi prostrée, ce qui augmente la probabilité pour qu'un mouton de la prairie ou qu'un herbivore de la prairie, en broutant l'herbe, absorbe cette fourmi et s'infecte avec le parasite, lequel d'ailleurs ensuite pourra continuer son cycle à travers un mammifère, et puis par la suite un troisième hôte, enfin peu importe. Oui, ces cas sont tout à fait documentés. Pour répondre à la question qui était posée au début, à savoir pourquoi le foisonnement contemporain des zombies. J'ai bien aimé le récit qui a été fait il y a un instant, les récits qui ont été faits. En fait, quelque part, les zombies, ce sont des catalyseurs d'analyse sociale, et de nos jours, on est de plus en plus sensible aux exclus de la société. Et quand on croise des SDF dans la rue, homeless people, quand on croise des sans-domicile, qui n'ont pas de lit, pas de, voilà, qui sont dans un état médical dégradé, eh bien, finalement, on ne peut pas s'empêcher de penser que la métaphore zombie reflète quelque part les zombies sociaux, que sont les personnes déconnectées de la société. Il est clair qu'on n'a pas envie d'aller leur serrer la main. Il est clair qu'on a toujours mieux à faire, on est toujours pressé et on passe devant eux sans même les regarder. Alors certes, ils ne vous attaquent pas, mais finalement, est-ce que c'est aujourd'hui l'image du zombie, évidemment, repoussante, ne décrit pas soit chez Romero, le dernier Romero, effectivement, les exclus de la société, soit les adolescents dont la longueur, le temps par lequel ils vont accéder finalement à l'autonomie économique ne cesse de s'allonger. Les jeunes aujourd'hui dans nos sociétés occidentales ne sont pas autonomes économiquement avant 25 ans. Donc une espèce d'adolescence économique en quelque sorte qui fait que il fait pas bon être adolescent à l'époque d'aujourd'hui. Et puis le temps de vie qui s'allonge et ces personnes âgées qui sont décrites dans ce roman, bah effectivement, ce sont aussi dans un hospice des gens qui sont reclus de la société. Et donc mon impression par rapport à la première question, c'était effectivement ce thème zombie repris pour décrire finalement des gens qui ne sont pas au cœur de l'activité économique.
C'est très juste. Alors si je te suis, on serait passé du miroir de la société à une menace épidémique peut-être. C'était la peste quoi, le zombie de Romero, c'est la peste. Alors, à autre chose quoi.
La crise économique en tant que peste peut-être, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui sont frappés par la crise économique sont exclus de la société et deviennent des zombies sociaux, à l'exception du roman de Daryl, où justement pour la première fois, à ma connaissance, parce que je n'ai pas lu tous les romans ici présents, mais pour la première fois, je trouvais le zombie vu de l'intérieur. C'est-à-dire non plus comme quelque chose de repoussant, mais comme on peut se glisser dans la peau de Stony Mayhall, et puis on vit ce qu'il vit, on vit la façon dont il voit les vivants. Alors je ne sais plus comment ils sont traduits en français. Les vivants portent un nom dans le langage des zombies. Je me souviens plus du nom, enfin peu importe, mais les vivants sont donc regardés de l'intérieur du zombie, et le zombie évidemment a une stratégie, ils ont une stratégie, ils se demandent ce qu'ils doivent faire politiquement, et là pour le coup on a une inversion du phénomène dont je viens de parler, où le zombie était toujours l'autre, et là cette fois-ci on est dedans quoi.
C'est le cas chez Daryl, c'est le cas chez Jérôme, ouais. Et c'est le cas aussi chez Mike,
ouais.
et même par extension chez Fabien, où ces zombies sont aussi ces personnes âgées. Donc voilà, on a retourné le problème. Chez Mike, le personnage principal de petite fille affame, donc c'est pas des zombies, c'est des affames, est sans doute un des personnages les plus émouvants que j'ai lu depuis longtemps. Il y a une scène où elle se rend compte. Elle a toujours été élevée au milieu de d'humains. Bon, alors elle va dans des cours, mais on la sort de sa cellule, on l'attache pour pas qu'elle bouge, et on lui attache les mains. Et il y a un moment où après un événement, ils sont sortis, ils sont dehors, et elle se rend compte qu'elle est, enfin le miroir, elle se rend compte qu'elle est comme la menace en fait, et qu'elle est pas humaine en fait. Et il y a une espèce de révélation chez elle très touchante. C'est un personnage très touchant. J'ai oublié son prénom, mais l'enfant affamé.
Melanie.
Voilà.
Melanie. It's very much a kind of coming of age story. I guess if I was inspired by any previous novel, it wasn't a zombie novel as such. It was Mary Shelley's Frankenstein, because the monster in Frankenstein is also an innocent. He is a child, and he becomes a monster because his creator, his parent, neglects him and abuses him. And I think in the same way, Melanie is monster and innocent. She can't control the hunger. The hunger is the fungus acting through her. But she learns in the course of the novel what she is, what her place in the world is, and ultimately she takes control of her destiny.
Je voudrais qu'on parle de religion. C'est une thématique aussi qui revient très souvent. Dans Romero, il n'y a pas d'explication scientifique, et je crois qu'à un moment il est dit que il n'y a plus de place en enfer, donc les morts reviennent sur terre. Enfin, c'est une citation peut-être du Nouveau Testament, je ne sais plus. Et cette thématique revient.
I think in the first movie, isn't it like radiation from a satellite from?
Okay.
Yeah, it makes no sense. So, okay. Like you said, it straddles science fiction and fantasy because it's a scientific explanation that makes no sense. So it might as well be fantasy.
Bah, dans quel?
C'est dans Zombie.
Dans Zombie.
Il y a cette citation quand les morts, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Et il faut voir aussi que Zombie, le scénario, il me semble, a été écrit par Dario Argento,
ouais.
Italien.
Non. Il a fait le montage.
Le montage, d'accord. Ouais. Mais parce que on occulte justement dans les années 70, on est sur La Nuit des Morts Vivants de Romero avec ce zombie sociétal, quoi. Et de l'autre côté, quand même, de l'Atlantique, il y a des réalisateurs comme Lucio Fulci qui exploitent la figure du zombie traditionnellement, le zombie chrétien, quoi. C'est-à-dire le zombie, la résurrection des morts.
Alors justement, chez Fabien et chez Daryl, il y a une notion assez religieuse. Chez toi, Fabien, donc ton livre s'appelle l'Évangile, quoi, l'Évangile cannibale, et tu t'es pas très tendre avec la religion organisée, quoi.
Bah, là aussi, c'est une parodie religieuse avec tout l'esprit millénariste qui est en partie à l'origine de l'essor du genre zombie, c'est-à-dire qu'on se fait peur avec la fin des temps. Et donc là, je pousse la logique jusqu'au bout où ils suivent en se disant, bah voilà, c'est la fin du monde, il faut repartir sur une nouvelle apocalypse, un nouvel évangile. Et sauf qu'évidemment, ça marche pas parce que c'est pris au pied de la lettre. Et ce qui manque, c'est l'interprétation. Et ce qui, à mon avis, dans tout texte, qu'il soit religieux ou pas, est nécessaire. Et comme ils font ça sans vraiment réfléchir, ça donne du grand n'importe quoi meurtrier.
Chez Daryl, est-ce qu'on peut dire que Stoney Mayhall est une figure christique ? Je ne sais pas s'il est né d'une vierge, mais en tout cas, il a un espèce de parcours comme ça, un peu...
There's a hint that there's a virgin birth. You know, he's taken to be sort of a zombie messiah because he's a zombie raised by humans, and so he's the bridge between the two species, and both claim him.
C'est Paul Moadib.
Oh, yeah, Paul Moadib. And so people keep trying to make him into a messiah figure. The zombies look to him as a messiah figure, and the humans, and he also saves the humans. He lays down his own existence to save the humans as well. I was raised as a Baptist, so it's impossible for me to write without inserting a Christ figure into everything I write. So it's a congenital defect.
Okay. On va retourner à des conceptions plus terre à terre parce que chacun d'entre vous fait aussi sa version du zombie. Alors il y a les zombies qui courent. Je sais que quand 28 jours plus tard est sorti. Tout le monde a râlé parce que les zombies couraient, ou c'est peut-être dans le remake de zombies, justement. Quand les zombies courent, les gens se disent ah, mais non, les zombies ça court pas parce que de toute façon ils ont les os. Et en même temps, on peut expliquer que bon, les zombies, en même temps, ils sont pas censés être debout non plus. Donc voilà. Guillaume, est-ce que dans la nature on a des exemples comme ça de créatures ni mortes ni vivantes ou qui reviennent à la vie ou qui ressemblent à des zombies?
C'est délicat, on va jouer avec les mots. Hein. En principe, lorsque les fonctions de la respiration cellulaire ne marchent plus, la réaction biochimique qu'on appelle la respiration, si ça ne marche plus, l'organisme est franchement mort. Alors, après, est-ce qu'on est un mort en puissance ? Il est des espèces d'insectes dans lesquelles il n'y a pas de ponte. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la larve se développe dans le corps de la mère et mange sa mère de l'intérieur. Chez certains coléoptères, ça marche comme ça, par exemple. Et est-ce qu'on va dire que, puisque la mère va donner naissance à la génération suivante, elle est évidemment une morte en puissance dès lors qu'elle a ses petits à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'un individu qui a une grosse charge parasitaire peut être qualifié de zombie, parce qu'après tout, il n'est plus que le réservoir des parasites qui, lorsqu'ils auront... larguer leurs œufs pourront tuer leur hôte. Le boulot aura été fait, si je peux le dire comme ça.
Si ça se trouve, les zombies qui sont morts sont pleins de d'êtres vivants qu'on ne perçoit pas.
Oui, alors justement, on va revenir là-dessus. Mais là, on joue un peu avec les mots, parce que disons que finalement, tout être vivant est un mort en puissance aussi. Alors, votre flore intestinale va finir par vous bouffer de l'intérieur, un jour ou l'autre. Non, soyons sérieux, non, le phénomène n'est pas pensable. Par contre, c'est la question de savoir si les zombies pourrissent. Alors là, il y a des versions différentes selon les romans. Je crois que dans le roman de Daryl, ils ne pourrissent pas.
Yeah, and it's a mystery to him. He's like, and they only rot when he can lose a part of his body and he stops thinking about it. That's when it begins to rot. So this kind of illusion of the body, he can keep moving as long as he keeps knowing that it's his body. Or you can, if you lose an arm, you can stick a wooden prosthesis onto your, and you can move it because you think of it as part of your body. So it's the body illusion. But as an experiment, he cuts off a toe and he leaves it and he checks on it every day. And every day it doesn't rot. And then months later, he realizes he's forgotten about it and he goes to check on it and it's rotted away. So that's the bizarre physics. It's the only physics I could think of for why every zombie movie should theoretically end in 3 days, right? 3 or 4 days, maybe 2 weeks. All the zombies should be decayed and falling off their bones. So there has to be some sort of reason for it.
classiquement, dans pas mal de fiction sur les zombies filmées ou même écrites, classiquement, il y a quand même une forme de pourrissement. En tout cas, Max, je fais référence à Max Brooks, qui a beaucoup travaillé sur la crédibilité du zombie, en fait. Alors, ils pourrissent moins vite en hiver, ils pourrissent plus vite en été. Le tube digestif, de toute façon, il est pas. Ils ont beau bouffer de la cervelle ou de la chair, le tube digestif n'est pas fonctionnel. Les bactéries s'y mettent. Hein. Enfin, chez Max Brooks, les bactéries s'y mettent, effectivement. Il y a donc un pourrissement du zombie qui progresse. Après, d'un auteur à l'autre, on trouve différentes choses. Ouais.
On va revenir à l'évolution du zombie, à la façon dont tous vous l'avez traité là. Est-ce que vous pensez, alors question qui s'adresse à personne en particulier et donc à tout le monde, est-ce que vous pensez que on peut plus faire du zombie comme on le faisait avec Romero et que cette espèce de d'invasion épidémique, de menace globale sur le monde est encore utilisable d'une certaine manière sans la pervertir. Peut-on faire du... J'ai l'impression qu'on est arrivé dans une espèce de méta-zombie. On n'est plus dans le zombie à papa. On est obligé de trouver des stratagèmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des œuvres actuelles qui utilisent le zombie de la manière historique, je vais dire? Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à le faire?
I think it's very difficult now to tell the story of the zombie apocalypse and tell it straight, because we've heard that story, we've seen that story 1,000 times. I think what most authors are doing now is they're taking the apocalypse for granted. They're using it as backdrop, as scenery, stage dressing for other kinds of stories. In Warm Bodies, it was the Romeo and Juliet story with a zombie and a live girl as the lovers. In Zombieland, it was a sort of a slapstick, gross-out comedy with zombies and so on. In Sarah Pimbera's The Death House, it's about 100 years after the apocalypse, and they've managed to breed the strain out of humanity. But every one in 100,000 live births has the regressive gene, and they could turn into zombies. So they're kept in the death house until they're 18 years old. And if you survive to 18, they'll let you out. But you could turn into a zombie at any time. And it's just about living with that uncertainty.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre?
En tout cas, le zombie a déjà une belle histoire, je trouve, derrière lui. Sur le plan cinématographique, il y a une belle survivance thématique dès la fin des années 60. Il n'y a pas de décennie cinématographique sans zombie. Je crois.
Il est peut-être plus vivant maintenant en BD, en littérature qu'en cinéma, non ?
Oui, puis alors le zombie apocalyptique, il y a un moment où il y aura un effet de lassitude obligatoirement. Par contre, le zombie en tant que terreur de la chose morte, je crois qu'on peut encore pendant longtemps, tant qu'on crèvera, qu'on pourrira, on fera du zombie. Et puis ce sont des figures, on parlait tout à l'heure de la religion, quand même la figure zombiesque primale, c'est le Christ. Et on voit, la première représentation graphique d'un zombie, je l'ai vu dans un triptyque de Dürer, avec un Christ en croix qui est dans un état de putréfaction avancé. Il y a même des mouches sur son corps. C'est la vision primale du zombie.
La réponse est la même pour moi, c'est-à-dire qu'on aura du mal à faire du zombie comme on en a fait beaucoup, le zombie sous son mode épidémique et apocalyptique, en partie aussi parce que le thème de l'épidémie est passé par d'autres moyens aussi. Avec les épidémies, alors pas seulement celle du sida, mais les épidémies grippales qui ont fait pas mal écrire d'articles dans les journaux il y a 5 ou 6 ans. Le thème de l'épidémie revient en force au cinéma, et c'est une épidémie qui passe pas par les zombies, qui passe par... Et l'épidémie, finalement, c'est toujours ce phénomène qui nous menace tous en tant que société mondiale et qui révèle toujours quelque chose sur ces sociétés. Il y a beaucoup de choses écrites sur l'épidémie de peste noire en 1348. Elle rebat les cartes totalement dans toutes les sociétés européennes. Quasiment la moitié de l'Europe... est emporté, et il y a un renouveau post-peste avec des cycles. C'est aussi... Oui.
Il y a eu Ebola aussi récemment qui
voilà,
a...
Voilà, c'est ça. Réveillé. Et donc finalement, peut-être que le thème de l'épidémie passe plus maintenant dans l'imaginaire à travers des réalités biomédicales plus tangibles, des virus classiques.
Non.
Et peut-être que le zombie, va, comme tu le disais, va être traité sur d'autres modes que le mode épidémique, parce que le mode épidémique, il a toute une diversité de traitements aujourd'hui qu'il n'avait pas précédemment.
Cela dit, il y a un lien visuel très fort quand même entre le zombie et le malade. D'ailleurs, le décor d'hôpital, c'est quelque chose de très récurrent dans les films de zombies aussi. Walking Dead commence dans un hôpital. On est
spin-off dans une église.
Oui. Et son spin-off dans une église. Et je me suis aperçu que j'ai dit une énorme connerie. C'est pas Dürer, c'est Grunewald. Hein. Sorry.
I agree with Mike that it's getting harder and harder to tell it straight. But every time I thought a subgenre was completely played out and there was nothing left to say, someone will publish an excellent book. You know, how many times have I thought vampires were done? Yes. We've all thought that. You know, and they keep coming back, and zombies will keep coming back. Because I do think, like, for example, and I've only written about this, I write a lot of, my hard SF is about neuroscience, and there is this idea of the philosophical zombie, which is, in neuroscience, the question of why do we have a consciousness, it's perfectly possible to have a thinking machine, a thinking body, without a self, without a conscious self, and that's a kind of zombie, and philosophers call that the zombie problem. So, there could be entire novels written about just that. It's not even, not having anything to do with epidemics or viruses, but that particular problem.
Can I just address the epidemic issue for a second? If you think it's implausible that a parasitic organism could control a human being in the way that cordyceps controls ants, there is actually a pathogen which you catch from cats. It's Toxoplasma gondii. It causes a condition called toxoplasmosis. And it actually gets into cats by infecting mice. And it makes the cats blind to risk so that they run towards cats instead of running away from them. Humans with Toxoplasma gondii in their system are something like 3 to 4 times more likely to be run down by a car. So it makes you blind to risk. It makes you assess risk badly in the same way as it does the mice. So it's not science fiction, it's a reportage.
Ah, je suis ravi, il nous laisse un espoir, peut-être pour un jour avoir des vrais zombies. D'analyser, ça devient de plus en plus dur de faire un récit de tell it straight, de faire un vrai récit de zombies. Il y en a un assez récent qui est pourtant, alors c'est peut-être pas des zombies, mais c'est une BD américaine qui s'appelle Crossed, enfin pas américaine puisque le scénariste est irlandais, je pense c'est Garth Ennis, et vous voyez de cauchemar qui est, alors je vous laisse commenter.
Crossed is horrible, don't read Crossed, it's a terrible story.
C'est des zombies puissance 1000, quoi. C'est encore plus affreux que des zombies, assoiffés de sexe. Et Alan Moore a repris la série, et donc c'est Crossed plus 100. Ça se passe 100 ans après les débuts de l'épidémie. Et donc il nous raconte la vie des survivants qui ont essayé de revivre. Et c'est vrai que c'est assez affreux. Hein. Vous trouvez vraiment ça?
It's much closer to the idea of the philosophical zombie that you were just describing, because people who have the Crossed infection basically lose their ethics. They become capable of carrying out any kind of atrocity without conscience, which means it's a comic that's full of murder, it's full of torture, it's full of graphic rape. I think it is entirely without merit. Sorry.
Je viens d'en citer une autre, mais est-ce que l'un d'entre vous a un exemple d'un de ses œuvres préférées, par exemple au cinéma? On a parlé de Lucio Fulci, qui est peut-être pas des super zombies, mais quelque chose dont il a envie de parler, rappeler peut-être, et qu'on n'a pas cité encore. On n'a pas cité énormément d'œuvres.
Il y a un film qui doit être du début ou la fin des années 60 ou du début des années 70. Alors je connais pas le titre original. Il me semble qu'en français, ça s'est appelé le mort-vivant, simplement, qui raconte le retour d'un jeune homme qui est mort pendant la guerre du Vietnam et qui revient dans sa famille, et c'est un drame. C'est un drame horrifique, intime. Alors là, justement, le sous-texte sociologique est vraiment à l'arrière-plan. C'est un film très intéressant et qui propose. Il y a une fin absolument terrifiante. Je crois que c'est la mère de ce personnage qui le met en terre pour de bon, qui met en terre pour de bon son fils dans le cimetière. Terrifiant.
Ça me rappelle une nouvelle d'Arlan Ellison qui s'appelle Jeff T. is Five, où un enfant, sans être zombie, est bloqué à l'âge de 5 ans, alors que les enfants autour de lui, son voisin, a grandi. Et la fin est à peu près similaire, à peu près aussi dramatique. C'est une merveilleuse nouvelle qui est un peu à côté du thème. Mais est-ce que d'autres...
Moi, c'est juste une indication bibliographique. Si dans le public, il y a des débutants en zombie... Peut-être qu'on peut débuter en zombie comme on débute en toute chose. Moi, je recommanderais la lecture quand même du livre de Max Brooks, World War Z, où on est sur une enquête rétrospective de la façon dont les humains ont jugulé l'épidémie zombie. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, puisqu'on l'a vu à d'autres tables rondes, j'aime l'histoire aussi, et c'est que le zombie est même réinséré dans le cours historique. Pourquoi les Romains ne sont pas montés en Angleterre plus haut que le fameux mur d'Adrien ? Eh bien, l'Écosse était en proie à une épidémie du solanum, du virus solanum. Et les Romains, l'Empire romain s'est heurté à une épidémie zombie en Écosse et ils ont dû construire un mur pour se protéger des zombies. Bon, il y a d'autres réinterprétations de mystères de l'histoire par la présence des zombies, qui traduit d'ailleurs une réalité, c'est que les épidémies, elles reviennent. La peste, à partir de 1348, on a eu des épisodes de peste en Europe tous les 15 ans, tous les 20 ans, par cycle, et ceci jusqu'au début du XVIIIe siècle, jusque vers 1720-1730. Donc, en reprenant des motifs de l'épidémiologie classique et en transposant dans le fantastique avec les zombies, on réinsère les zombies dans l'histoire, et Max Brooks est tout à fait malin pour ça. Donc, voilà, une indication bibliographique pour les débutants, en tout cas. Ouais.
Moi, je repensais à autre chose. C'est d'un point de vue littéraire, c'est pas une référence. C'est qu'on on a parlé du zombie comme une espèce de successeur de Jésus, en tout cas Jésus étant le premier zombie historique. Moi, je me suis un petit peu intéressé aux formes pré-zombies qui peuvent exister dans l'Antiquité, dans la mythologie gréco-latine. Et on peut s'intéresser à la figure de Sisyphe qui est connue avec son rocher qui pousse. Mais avant ça, l'erreur qu'il a commise vis-à-vis des dieux qui lui vaut cette punition dans certaines versions, c'est qu'il a refusé de mourir. Et donc, au moment où il meurt, il dit à sa femme de ne pas l'enterrer correctement, de ne pas suivre les rites funèbres. Comme ça, quand il arrive aux enfers, il est refusé. Il est refoulé, comme à l'entrée d'une boîte. Et du coup, il revient et il revit. Sauf que, effectivement, là où on n'est pas complètement dans le zombie, c'est qu'on n'insiste pas sur le corps pourrissant. Mais on peut tout à fait imaginer que son corps a mal supporté la mort. Et c'est comme ça que la mort va venir le chercher, Thanatos. Il va l'enchaîner, parce que c'est quand même un malin, Sisyphe. Et c'est là que Zeus va intervenir en disant « ça suffit, tu retournes aux enfers, va pousser ta pierre ». Et c'est peut-être pas un hasard si justement Sisyphe, qui est devenu pour nous une des incarnations de la destinée de l'être humain, avec Camus notamment, n'est pas aussi une des premières formes du zombie.
Mais c'est aussi le cas finalement de tous les rites funéraires. La fonction d'un rite funéraire, c'est de faire en sorte que le mort ne revienne pas. Donc derrière tous les rites funéraires, il y a cette terreur profonde, ancestrale, du mort qui revient et qui, obligatoirement, le mort qui revient n'est pas comme le vivant. Le mort qui revient est porteur d'une malédiction, obligatoirement.
Est-ce que le zombie, alors, peut-être on va conclure là-dessus, n'a pas remplacé le fantôme dans l'imaginaire fantastique contemporain ?
En partie, à mon sens, en partie. Mais d'autres, il y a d'autres créatures qui ont aussi eu cette fonction, l'extraterrestre. Hein. L'OVNI est le grand remplaçant au XXe siècle de la figure du fantôme. Mais le zombie aussi, tout à fait.
Et ce que je voulais dire sur l'opposition entre zombie et fantôme, hein, c'est quand même que le fantôme, c'est un esprit sans corps. Et le zombie, c'est exactement l'inverse, c'est un corps sans esprit. Hein, et donc, il se complète de ce point de vue-là.
En fait, nous sommes un mix entre nous qui avons un corps et un esprit, entre un zombie et un fantôme.
Voilà, c'est des humains ratés, en fait.
Pour compléter le tableau, on n'a pas parlé de musique. mais le zombie a été mis en musique, ou des musiques s'inspirent du zombie. Alors je vous recommande Fela Kuti, par exemple, ce fameux musicien jazzman nigérian, qui fait un long morceau qui s'appelle Zombie. Donc c'est le thème du zombie, mais traité dans de l'afro-jazz, en fait, de la musique d'Afrique noire. Et puis en France, on a par exemple Magma de Christian Vander. En 1976, il y a un morceau fameux qui s'appelle Zombie. Et on a vraiment l'impression de voir les zombies arriver dans ce morceau de musique. Donc ça peut certainement s'écouter d'ailleurs en ligne maintenant. Ouais.
La musique de zombies, hein, les goblins.
Oui. La musique de zombies en Europe.
Oui. Anyway. En Europe.
If you want a treatise on the grand unification theory between ghosts, vampires, and zombies, read I, Zombie, the original comic by Chris Robertson,
yes,
where he lays out an entire mythology that links all these things together, like what they all have in common and why they're all variations upon the same theme. It'll probably never make it into the TV show because it's way too inside baseball, but it's a beautiful piece of explanation.
Yeah. Et on a oublié de citer aussi le Je suis une légende de Madson, qui est un proto Nuit des morts vivants. C'est l'heure, on va s'arrêter là. Merci à tous nos intervenants, et puis nous sommes des zombies et des fantômes.